Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée aujourd'hui est Marielle Salmier, animatrice, comédienne, réalisatrice, autrice, coach. J'ai rien oublié, bonjour.
Bonjour. Être humain peut-être aussi, hein, et puis sinon heureuse de participer à cette émission.
Que de chemin parcouru depuis la radio, la télévision, d'abord le théâtre.
D'abord le cinéma et ensuite le théâtre. Alors je dirais que c'est un parcours finalement qui est très cohérent puisque on a appris avec la télé l'exercice donc d'être face caméra, l'équipement technique, etc. La radio bien entendu pour l'élocution et pour l'aisance tout simplement avec ce qui nous entoure en termes de technique. Et puis forcément tout s'est un petit peu imbriqué, mais je pense que c'est une suite cohérente.
Alors on a en tête Marielle en vrai. Cette pièce de théâtre dans laquelle on vous a découvert sous d'autres angles, ou dans laquelle vous parliez de votre enfance, des relations difficiles avec votre mère, ça a été un véritable challenge, cette pièce.
Ça a été un challenge, en tout cas pour la première exécution, pour l'avant-première, enfin pour la première. Là où ça a été challengeant, c'est surtout lors de la préparation, puisque nous avons travaillé 2 ans pour mettre en place cette pièce avec Ricky Tribord, le metteur en scène. Challengeant certes, légèrement thérapeutique aussi, en tout cas. Mais ensuite, c'est devenu vraiment et réellement un vrai objet artistique qui a vocation effectivement de véhiculer des messages d'utilité publique. Ça c'est la première chose, mais la deuxième chose aussi c'est cathartique, donc forcément ça résonne en chacun et il y a des messages qui sont complètement universels, et tant mieux si ça peut apporter à chacun une piste de réflexion pour pouvoir s'en sortir, trouver des chemins qui vont leur permettre d'aller vers une évolution positive pour leur vie.
Suite à cette pièce, est-ce que le regard du public a changé sur vous?
J'imagine que oui. J'imagine que oui, parce qu'on connaît la Marielle pétillante, la Marielle qui rigole tout le temps, la Marielle qui est toujours de bonne humeur. Mais comme tout être humain, eh bien oui, on a une Marielle aussi qui parfois a eu des phases très difficiles. Mais je pense que c'est parce que ces phases difficiles ont pu être traversées et surmontées, avec toujours une pointe d'optimisme et d'émerveillement pour tout. Ce qui a fait que ça m'a nourrie et ça m'a permis de pouvoir me construire telle que je suis. Et puis montrer aussi qu'il faut cesser de se juger en réalité, parce qu'on est toujours en train de se juger et soi-même. Même et juger les autres, mais on ne sait pas en fait ce que les gens traversent. Donc je pense que c'était aussi pour dire, cessons de nous juger, soyons beaucoup plus indulgents les uns avec les autres et les uns envers les autres.
Il y a eu plusieurs représentations en Guyane et à l'extérieur. Est-ce que les comportements, les réactions du public étaient différentes?
Alors, comme aime à l'appeler Ricky Tribord, le metteur en scène, je rappelle, le coup de poing émotionnel a été le même, parce qu'effectivement, il y a, c'est vrai, des trames, en fait, qui sont complètement universelles. En revanche, bien entendu, en Guyane, il y a eu un écho différent, parce qu'encore une fois, j'appartiens à la Guyane. Je suis la Guyane. Donc forcément, il y a eu des réactions qui étaient différentes, où il y a des personnes qui m'ont dit, on savait ça, mais pas ça. On était avec toi pour telle et telle période, mais pas telle période. Donc forcément, il y a eu des retours beaucoup plus directs et beaucoup plus intimes en Guyane. Mais effectivement, dans les grandes lignes, tout le monde a déjà eu des difficultés avec son parent, tout le monde a eu des problèmes identitaires, tout le monde a eu des problèmes avec les relations amoureuses, par exemple. Tout le monde a eu aussi peut-être des problèmes dans la recherche et le cheminement vers lui-même. Donc forcément, c'était, on va dire, impactant pour tous, quel que soit le pays dans lequel nous avons représenté cette pièce.
Est-ce que vous avez pensé, à un moment donné, en faire un livre ?
Ah ben, initialement, c'était déjà un journal intime. Alors, on nous a demandé deux versions. La version théâtrale, qui pourrait être ensuite jouée par d'autres comédiens ou comédiennes, et puis la version intégrale, puisque c'était initialement, comme je le disais, un journal intime que j'avais commencé à l'âge de 13 ans, ce qui fait qu'il y avait plus d'une centaine de pages. Bien sûr, il y a eu une adaptation, mais c'est prévu, mais pas tout de suite. Comme la pièce tourne encore, pas tout de suite, parce que je pense qu'il y a encore eu un cheminement après la pièce qui peut-être nécessiterait d'être ajouté aux premiers écrits.
Entre le théâtre et le cinéma, mon cœur balance.
Ah, alors là, j'ai envie de dire que le théâtre, c'est tellement plus direct. C'est comme quand on est en radio, en fait. C'est tout de suite. On est dans une interaction immédiate. Alors que le cinéma, forcément, on est dans des retakes, on est dans des pauses, on est dans des changements de plan. Je dirais que c'est un exercice complètement différent. Voilà, j'aime deux plats. J'aime le tiboudienne du Canada, du Sénégal, et j'aime le bouillon d'awara végétarien de la Guyane. Ah, j'aime les deux. Voilà.
Est-ce que tout cela s'inscrit dans un plan de carrière ou c'est totalement improvisé, c'est en suivant le moment et selon les opportunités qui se présentent?
Je crois que c'est ça. En réalité, on m'a apporté des opportunités, notamment avec Marie Barra, qui est le premier à m'avoir fait tourner, hein, en 2001. Voilà, les opportunités se sont présentées. Je me suis dit pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on m'a fait confiance avant que moi-même je sois dans la découverte de tel ou tel art. Et puis au fur et à mesure, ça s'est tissé comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, je suis plus dans une idée de transmission. C'est la raison pour laquelle je travaille beaucoup avec les enfants, que ce soit en Guyane ou au Sénégal ou au Canada. Je trouve que c'est très important la transmission. Donc je serais plus dans cette vocation. Voilà, si je devais vraiment choisir, ce serait ça.
Il y a une trame, un point commun, ce sont des rencontres, des duos, des co-réalisations. On peut citer Serge Poyotte, Vicky Tribord. Pour vous, les rencontres peuvent déboucher sur des résultats exceptionnels, extraordinaires, ou c'est une manière également pour vous de vous enrichir et peut-être de vous compléter en termes de compétences, d'expérience.
Ben, un peu tout ça. Je pense que de toute façon, on rencontre jamais les gens par hasard. Il y a toujours forcément quelque chose qu'on va pouvoir apprendre de l'un ou de l'autre, ou se donner, partager les uns avec les autres. Parce que je pourrais citer aussi Marvignan, mais je pourrais aussi citer Stéphane Florissien, je pourrais en citer beaucoup d'autres en tout cas. Mais c'est vrai que je pense que, voilà, comme on apprend les uns les autres et qu'on se nourrit les uns les autres, oui, les rencontres sont importantes. Alors je pense que les rencontres ne se font jamais par hasard. Donc il y a de toute façon une manière de s'enrichir les uns et les autres. Donc c'est un petit peu tout ce que vous avez dit, avec effectivement une manière donc de s'enrichir, certes, au niveau des compétences, mais aussi d'être dans un effort commun pour un seul projet. C'est-à-dire que je pense que sur un tournage ou encore sur une pièce de théâtre, il y a toujours chacun qui est interdépendant de l'autre. Donc c'est vraiment faire cohésion, faire corps avec l'équipe et puis pouvoir proposer quelque chose de nourrissant aussi au public.
Vous nous disiez tout à l'heure, Marielle Salmier, que vous étiez dans une dynamique de transmission, mais on voit également à travers vos œuvres un engagement féministe, défense des droits des femmes. Pour vous, c'est important de véhiculer un certain nombre de messages qui vous tiennent à cœur?
Alors j'aurais aimé dire que je ne connais pas la situation et malheureusement c'est faux parce que je connais malheureusement cette situation d'emprise, de violence, d'agression, que ce soit de torture psychologique, physique, toutes ces choses-là malheureusement. Donc ce qui fait que je sais que c'est pas si simple et que lorsqu'on entend dire ben si elle a pas envie de rester là-dedans, elle reste pas, elle a qu'à partir, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est que lorsqu'on a la sensation d'être libre à l'extérieur et qu'à l'intérieur, quand on rentre, on est dans une prison, c'est là en fait qu'on a besoin d'aide. C'est pas forcément à l'extérieur qu'on a en plus des regards un peu de jugement. Donc oui, j'essaye effectivement d'aider. Alors je commence par la jeunesse, justement. C'est pour ça que je pense que c'est important de commencer aussi par la jeunesse. Pour dire aux jeunes femmes qui ont 16 ans, 17 ans et qu'elles ont des problèmes avec leurs petits copains, de leur donner les limites aussi, de leur expliquer où sont ces limites-là qu'on a dans les rapports avec les hommes, avec les femmes aussi, hein. Mais c'est aussi, je pense, la transmission passe aussi par ces messages-là, à travers l'art, à travers l'expression orale, corporelle, mais ça fait aussi partie effectivement des grands thèmes parce que le féminicide fait encore beaucoup trop de victimes, on le sait, et ça, c'est pas normal. Il y a aussi encore beaucoup trop d'agressions sexuelles sur mineurs quand on sait que la plupart du temps ça se passe dans l'environnement familial ou en tout cas des connaissances. Voilà, il est important, je pense, que très jeune on puisse apporter une forme d'information à ces enfants-là. Enfin, aux enfants de manière générale. Et c'est aussi le message que j'ai voulu faire passer dans mon premier roman.
Vous donnez l'impression d'être insaisissable, inarrêtable. Jusqu'où voulez-vous aller?
Alors, même le ciel n'a pas de limite. Donc, j'irai tant que je vais souffler, tant que je vais respirer, tant que je vais aimer, tant que je pourrai, eh ben, je continuerai. Parce que l'art, justement, c'est une voie qui permet d'être toujours en évolution. Et on n'a pas de limite, en réalité. Je pense que c'est quelque chose que je ferai tant que j'aurai la santé pour le faire, quoi. Et tant que j'aurai une créativité pour le faire, eh ben, je le ferai. Donc, yes, inarrêtable.
Vous êtes une boulimique du travail?
Oui, c'est vrai. Alors, je tâche de mettre dans ce travail-là tout plein d'ingrédients qui permettent d'être dans une forme de sérénité et d'apaisement, puisque je pratique la méditation, donc ça permet quand même de pouvoir temporiser et canaliser parfois un trop-plein d'énergie. Mais je suis tellement contente chaque jour que ce soit une nouvelle vie. Voilà. Donc, du coup, j'en profite, parce que je sais que malheureusement, on peut s'endormir et ne pas se réveiller. Donc, moi, je suis remplie de gratitude de me réveiller chaque matin et de me dire qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui.
On va faire un focus hein, tout à l'heure sur ce que vous avez réalisé, mais une chose retient mon attention, c'est votre capacité à vous renouveler, de passer de la radio à la télé, de la télé à la scène. Tout le monde n'en est pas capable. Où trouvez-vous cette force, cette énergie dans la méditation?
En moi, ouais, dans mon refuge intérieur. C'est-à-dire que c'est vrai que dit comme ça, des fois, à chaque fois qu'on m'interviewe, on me dit tu fais beaucoup de choses, mais en réalité, sincèrement, pour moi, c'est une tâche après une autre. C'est jamais quelque chose qui me semble être submergent en réalité. C'est une tâche après une autre. Alors oui, peut-être qu'il y a une, peut-être que j'ai une capacité d'absorption d'informations. Mais ça, c'est encore une fois l'apprentissage de la télé, l'apprentissage de la radio. C'était une très très bonne école en fait, parce qu'on absorbe beaucoup d'informations lorsqu'on prépare des émissions. Donc je pense que c'est, voilà, si j'ai une facilité, c'est peut-être celle-ci, d'avoir une absorption qui est assez aisée. Mais après, tout le reste me semble être vraiment réalisé tâche après tâche. Voilà, donc après, je peux passer d'une pièce à une autre, mais parce que tout ça, c'est du travail.
Il y a eu Marielle en vrai, et puis au cinéma, Myriam en noir, ce film que vous avez co-réalisé avec Serge Poyotte, un film que l'on peut encore aujourd'hui visualiser, hein.
Alors le film Myriam en noir est en... Voilà, on a terminé de le tourner. Là maintenant, il va rentrer en phase de post-production. Donc on va pouvoir proposer une avant-première certainement en Guyane, je pense peut-être fin premier trimestre 2024. Et encore, je n'ai pas toutes les informations concernant cela. Je suis la coproductrice. C'est vraiment Serge qui est le seul réalisateur. Donc une série qui effectivement rend encore un peu justice, on va dire, aux femmes, en tout cas la force des femmes, à la détermination des femmes. C'est un film d'action, un film qui revêt un caractère complètement inédit, puisque des films d'action en Guyane de cette façon-là, articulés comme ça n'a jamais encore été fait. C'est un film aussi intimiste, avec bien entendu la touche Serge Poyotte de réalisme magique. Donc un film qui nous a été très agréable de faire ensemble. C'était la deuxième collaboration avec lui après Le lien qui nous unit. Et voilà, je pense que ça va être une belle aventure encore, Myriam en noir, parce que ça va certainement être décliné en série.
Alors, à aujourd'hui, ce sont combien de films auxquels vous avez participé ou co-réalisé ou réalisé?
Alors, ouf, ça, je ne sais pas. Je dirais, je sais pas, une vingtaine. Je sais pas, une vingtaine. Après, entre les séries, les films, les téléfilms, les longs métrages, les courts métrages, honnêtement, y en a quand même pas mal. Je ne sais pas, ouais, je dirais une vingtaine. Je dirais ça.
Je suppose que l'expérience est différente devant la caméra et derrière la caméra.
Oui, surtout que là, pour le coup, je réalise un film, enfin, nous avons réalisé avec Kensai de Madras Productions un film documentaire qui retrace un peu les résidences artistiques qu'on organise avec le Canada et le Sénégal. Donc, bien sûr, c'est encore autre chose. Mais pareil, c'est comme pour la mise en scène. Là, je travaille sur une troisième pièce de théâtre que je vais faire avec des comédiens, mais je ne vais pas jouer dedans. Donc, ce sera aussi une première. Et puis, voilà, je pense qu'effectivement, c'est important de pouvoir... Encore une fois, ça reste dans la transmission. Parce que moi, j'aime travailler avec des personnes qui n'ont jamais fait des choses. Comme moi, j'ai commencé en n'ayant jamais rien fait. Et on m'a toujours donné ma chance. Donc, du coup, ben, je fais la même chose avec les personnes qui m'entourent et qui ont la détermination.
C'est ce qui explique peut-être cette collaboration avec T2I dans cette pièce de théâtre intitulée Nous-mêmes.
C'est ça. J'aime bien décloisonner en fait. Parce que moi-même, je me suis décloisonnée. Donc j'aimerais bien le faire avec plus de personnes encore. Et T2I, s'il y a vraiment quelque chose aujourd'hui dont je suis contente, mais, et même fière, je pourrais dire, c'est d'avoir eu du nez pour lui. Parce que je savais qu'il avait vraiment quelque chose, une valeur ajoutée à apporter à la scène théâtrale en tout cas. Et voilà, je ne me suis pas trompée. Et il est juste extraordinaire. Il porte vraiment cette pièce avec beaucoup de talent, beaucoup de brio, beaucoup de présence. Exactement tout ce que j'avais déjà vu chez lui à travers son art de chanteur.
Cette récompense que vous avez obtenue au Festival de la Toile des Palmistes pour l'ensemble de vos œuvres audiovisuelles, C'est une récompense qui vous va droit au cœur.
C'est génial, Michel, parce que là maintenant j'ai de la voix, je vais pouvoir parler parce que je pouvais pas parler. J'étais vraiment saisie d'émotion. Alors bien sûr que c'est gratifiant, bien entendu. En plus de ça, c'est à la maison. Voilà, on est à la maison, on est chez nous. J'aurais pu rester en Afrique, je peux rester au Canada, j'aurais pu rester à Paris, mais c'est vrai qu'à chaque fois, mon cœur me ramène en Guyane parce que c'est là que j'ai tout appris, c'est là que je me nourris, c'est là que je trouve que spirituellement, on est beaucoup plus ancré. Donc, bien entendu, que ce soit en plus une récompense qui porte le nom de Véronique Loate et de Lorraine Belle-Rose, un prix qui a été initié l'année dernière et qui avait été remis donc, dans un premier temps à Vanina Lanfranchi, qui elle aussi œuvre beaucoup pour la jeunesse dans l'Ouest, c'est très, très, très honorifique. Bien entendu, ça fait plaisir. C'est aussi, ça met un peu de pression quand même, parce que du coup, on se dit, j'ai à la maison là le trophée avec qui porte le nom de deux femmes pionnières en fait dans ce registre-là, dans la production, la réalisation, dans la gestion des gros événements. Donc, ouais, j'espère vraiment être digne de ce prix.
À travers vos œuvres, Marielle Salmier, est-ce que vous avez le sentiment de contribuer au développement de l'attractivité de la Guyane?
Ah ben j'espère, j'espère, j'espère. Alors après, bien
Est-ce que c'est
entendu,
quelque chose qui vous anime?
complètement. Alors complètement. C'est pour ça que je dis j'espère, parce que complètement. C'est la raison pour laquelle intervenir dans les établissements publics, c'est vraiment le point d'orgue pour moi. Travailler avec la jeunesse, c'est mon point d'orgue. Même si c'est hors activité scolaire, eh ben, je réunis des enfants et là aussi pareil, je travaille avec eux. Il faut que ce soit ludique et en même temps que ça leur apprenne quelque chose. Étant très concernée par l'environnement également, donc j'ai monté une pièce qui s'appelle Eylo, un jeu de mots aussi pareil avec des enfants pour leur apprendre la gestion aussi de l'eau potable, pour qu'ils aient un respect très tôt. Pour la gestion de l'eau potable. Donc oui, je pense qu'on a aussi cette responsabilité, en tout cas artiste en fait, d'être comme on a nous un auditoire. On a un auditoire, tout clairement, ce qui fait que je pense qu'on a une responsabilité de pouvoir faire passer des messages d'utilité publique. Et plus tôt ça va commencer, plus tôt ça va permettre peut-être à ces jeunes-là de devenir des adultes qui auront des gestes éco-responsables.
Un mot quand même sur cet ouvrage que vous avez publié.
Je n'ai pas de parents, donc mon premier roman, très court, qui se lit assez vite, avec des caractères assez imposants qui permettent une lecture assez aisée. Aussi un coup de poing émotionnel pour certains. Pourquoi? Parce qu'il est brut, parce que je ne sais pas écrire les choses avec des filtres, parce que la vie n'a pas de filtre, tout simplement. Donc j'écris avec voilà tout ce qui me vient, les pulsions du moment. C'est un livre qui est né d'une vision, je pense, d'un petit garçon que je vois par la fenêtre et me voilà en train d'écrire une petite histoire, suite à laquelle on me demande une suite. Et me voilà partie pour écrire la petite histoire d'un petit garçon qui s'appelle Ruben. Ce petit Ruben qui va donc se construire à travers les rencontres qu'il va faire, des rencontres avec des adultes qui ne seront pas toujours bienveillants, rarement d'ailleurs bienveillants, et qui vont lui permettre donc dans sa quête identitaire qui était complètement inconsciente au départ, eh bien de devenir de rester un adulte, un être humain même, un être humain complètement empreint de naïveté et qui va rester enrobé de son innocence. Voilà, c'est même pas un livre qui parle de résilience parce que lorsqu'on ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, on ne fait que subir et suivre le flot en réalité dans un lâcher-prise continu en se découvrant au fur et à mesure à travers les gens qui vont être à côté de nous. C'est un peu ça la vie en réalité. Mais c'était aussi pour conscientiser les adultes d'avoir un regard beaucoup plus bienveillant sur les enfants qui nous entourent. Je pense qu'on n'a pas non plus suffisamment d'amour parfois ou d'attention parfois avec les enfants qui nous entourent. On voit un enfant mal habillé ou on voit bien qu'il est mal nourri ou qu'il est un peu sale ou qu'il est tout simplement très embêtant. On ne va pas se douter que peut-être que derrière ça, il y a un mal-être, il y a un malaise, il y a du drame, souvent. Donc c'était aussi pour que nous, en tant qu'adultes, on puisse ouvrir les yeux et ne pas seulement les voir, mais aussi les regarder, prendre le temps de les regarder.
Alors, en parlant de parents, beaucoup d'entre eux, justement, déconseillent parfois à leurs enfants de se lancer dans l'art, estimant que le secteur n'a pas vraiment de débouchés et ne présente pas vraiment d'avenir stable pour eux. Alors, pour vous qui aviez fait le pas, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela?
Alors je peux répondre que tout simplement, on n'apprend pas à nos enfants à être heureux. C'est pas le message de base en général. On leur apprend à être bon à l'école, à être performant, à être intelligent, instruit. Mais je pense que ça peut être intéressant d'apprendre à nos enfants à être heureux. Voilà, c'est quoi le bonheur pour toi, mon enfant? Dans quoi est-ce que tu te sens bien? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et si l'enfant il a envie de déclencher ou en tout cas d'évoluer dans une filière artistique, je pense que c'est intéressant. Surtout que maintenant, ça pouvait être un discours qu'on pouvait tenir il y a encore les 2 décennies, mais aujourd'hui on ne peut plus vraiment dire ça. On est beaucoup trop nombreux avec des carrières à l'international. Je vais citer, il y a Sisley Loubet, il y a Yannick Lebrun, il y a Antino Pansa, il y a Ricky Tribord, il y a Stani Copette, il y a Stana Roumiak, il y en a plein, il y a Warren Copette, il y en a plein, il y a plein d'artistes de chez nous. Et encore, je suis restée dans l'acting et dans le spectacle, mais il y a Emeline Octavie. Enfin, je veux dire, maintenant dans l'art, on est très 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 bien représentés dans le monde entier. Je ne vais pas passer à côté du nom d'Alizée Utérin, quoi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas passer à côté d'elle, c'est pas possible.
Marielle Salmier, en toute franchise, est-ce qu'on peut réussir dans le cinéma tout en étant installé en Guyane?
Oui, on peut. On serait tenté d'aller à Hollywood, mais on est déjà aux États-Unis, donc. Alors, en tout cas, on est déjà en Amérique. Et si on considère que nous sommes tous ensemble, donc c'est un État, et si on considère qu'on est encore plus ensemble, c'est uni. Donc, je pense qu'effectivement, il est préférable d'être aussi tourné vers l'extérieur, aussi. Déjà, dans un premier temps, pour faire rayonner la Guyane, parce que je pense que c'est aussi un petit peu ce qui nous anime un peu tous aussi, pour qu'on devienne une vitrine attractive, ne serait-ce qu'avec nos compétences, avec nos techniciens, mais également nous, en tant qu'artistes, en plateau, ou en tout cas devant la caméra. Et puis, pour optimiser aussi les opportunités. C'est sûr que lorsqu'on est en France, on a plus accès au casting. En Guyane, il n'y a pas d'agence, en fait. Il n'y a pas de représentatif, il n'y a pas de directeur artistique, vraiment, en Guyane, ou en tout cas de manière ponctuelle. Donc, bien entendu, c'est intéressant d'aller à Paris ou ailleurs. Hein. Ça peut être Paris, ça peut être le Canada, ça peut être Londres. Si tant est qu'on est complètement bilingue, ça peut être une bonne opportunité, mais c'est complètement faisable. Après, encore une fois, je pense que c'est important de revenir à chaque fois, de ne pas s'oublier, de ne pas se perdre, que ce soit dans le succès ou autre, de ne pas se perdre, de garder la tête froide et de revenir quand même au pays pour pouvoir encore une fois toujours être dans cette dynamique de transmission.
Marielle Salmier, merci.
Merci à vous pour l'invitation.
Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.